La santé, c'est l'affaire de tous.
La santé, c'est l'affaire de tous. Soyez les bienvenus sur Phare FM Montauban. C'est déjà la 7e émission avec notre docteur référent, désormais le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui?
Bonjour Samuel, je vais très bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir chez nous le professeur Bettina Kodek qui va parler sur un sujet très important, c'est la recherche médicale.
Merci Edmundo pour cette présentation. Professeur Kouder, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'antenne de Phare FM. Vous avez toute la liberté donc pour parler sur le sujet des essais cliniques. Bonjour.
Bonjour Samuel et bonjour Edmundo. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir parler aujourd'hui d'essais cliniques avec vous. Pour me présenter, donc, je m'appelle Bettina Kouder et je suis professeure de biotechnologie à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Et je travaille depuis 30 ans à l'UICT Oncopole dans la recherche clinique.
Voilà, c'est très bien. Bettina va nous éclairer un peu sur la recherche médicale parce que Bettina, en plus, elle est présidente du comité de protection des personnes, on va dire maintenant CPP, pour faciliter un peu. Alors, nos auditeurs, quand vous entendez CPP, ça veut dire comité de protection des personnes. Elle va nous expliquer un peu de quoi s'agit, comment il fonctionne. Et merci beaucoup Bettina, je sais que tu es très prise, merci beaucoup de consacrer un peu de ton temps à nos auditeurs, à cette émission. Merci. Alors, pour commencer, la première question, c'est quoi un essai clinique?
Alors, un essai clinique sert à évaluer des nouveaux traitements ou des nouvelles modalités de soins. En effet, avant de proposer un nouveau traitement à tous les patients concernés, il est impératif de prouver que ces nouveaux traitements sont efficaces et bien tolérés. Mais il n'y a pas que ça. Dans les essais cliniques, nous avons également des analyses biologiques qui nécessitent des prélèvements ou des études chez l'humain. Et ces analyses permettent soit de mieux comprendre une pathologie et son développement. Donc, ces études visent à rechercher ce qu'on appelle des biomarqueurs qui permettraient d'identifier les patients à risque de développer une maladie afin de la prévenir. Mais ça peut servir également à tester l'efficacité et l'innocuité de traitement, c'est-à-dire la vitesse d'absorption d'une molécule, comment le corps s'en sert, son mode d'action et surtout les effets secondaires. Donc, lorsqu'on parle d'essai clinique, c'est quand même quelque chose de très, très vaste. Ce n'est pas uniquement la première administration à l'homme d'un médicament, mais ça peut être également, voilà, vous êtes atteint d'une pathologie, on voudrait faire des prises de sang sur vous parce que on vous a administré un médicament, on veut savoir en combien de temps il est éliminé, par exemple. Donc, les essais cliniques, c'est quelque chose de très, très vaste. Mais on peut revenir tout à l'heure pour expliquer plus précisément tous les cas qui existent.
Parfait. Et c'est vrai que quand on parle d'essais cliniques, de recherche médicale, une remarque qu'on entend souvent de nos patients, c'est que ils ont peur d'être pris par des cobayes. Est-ce que ça peut exister, ça justifie cette peur?
Non, cette peur n'est pas justifiée. C'est un mot qui est très, très péjoratif. Donc, les patients ne sont jamais des cobayes. Aucun patient ni aucun volontaire n'est admis dans un essai clinique sans qu'il l'ait souhaité et sans qu'il ait signé un consentement. Donc, il y a vraiment un partenariat entre le médecin et son patient ou un volontaire pour participer à un essai. Donc, non, ce ne sont pas des cobayes. Ensuite, quand un essai clinique est autorisé, c'est-à-dire avant qu'il soit proposé, c'est qu'on juge que la balance bénéfice-risque est en faveur des bénéfices pour le patient. C'est-à-dire, on a un faisceau d'arguments qui nous laisse penser que ce sera bénéfique. Alors, à cela, je dois quand même mettre un petit bémol parce qu'il y a des essais cliniques sur des volontaires sains, donc des personnes qui ne sont pas malades et qui n'ont pas besoin de traitement. Et ces personnes qui acceptent de participer à une étude clinique, ils ont à cœur d'apporter leur aide à la recherche. Donc, leur démarche est complètement altruiste. Donc, voilà, même eux, ce ne sont pas des cobayes puisque c'est leur volonté de participer pour aider la recherche. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais quelqu'un n'est inclus dans un essai sans le savoir. Donc, les patients ou les volontaires qui participent le font volontairement, après avoir été renseignés sur les avantages et les inconvénients, après avoir eu un temps de réflexion conséquent et avoir signé un consentement. Donc, ça, c'est très important.
Parfait. Merci beaucoup pour ces renseignements. Après, la prochaine question, qui fait des essais cliniques? Est-ce que c'est seulement les médecins? Est-ce que on peut le faire dans n'importe quelle structure? Est-ce que tu pourras nous éclairer un peu sur ces trois points?
Alors, qui fait des essais cliniques? Ça dépend de l'essai. Donc, si c'est un essai médicamenteux ou un essai d'un dispositif médical, ce sera des médecins. Mais pas les médecins doivent fournir aux instances, on en parlera tout à l'heure, qui vont autoriser l'essai, vont fournir un curriculum vitae et surtout une preuve comme quoi ils sont habilités à faire de la recherche clinique. Ils ont les compétences. Donc, c'est un médecin qui a un petit peu d'expérience. Après, est-ce que c'est seulement des médecins? Comme j'ai dit tout à l'heure, non. Il existe des essais cliniques qui visent à évaluer un geste infirmier ou à évaluer de l'ostéopathie ou de la kinésithérapie. Donc, dans ces cas-là, ce sera ceux qui vont faire l'essai, ce seront des kinésithérapeutes ou des infirmiers ou des ostéopathes. Donc, voilà, ça dépend de l'essai. Et est-ce que c'est dans n'importe quelle structure? Généralement, c'est dans des structures hospitalières, mais ça peut être dans un cabinet d'ostéopathie, dans un cabinet de médecins en ville, etc. Tout dépend de l'essai. C'est sûr que si on administre pour la première fois à l'homme un médicament, vu que là, quand même, on doit surveiller ce qui va se passer, ça se fera dans une structure hospitalière avec des médecins qualifiés en recherche clinique. Mais pour tous les autres essais, ça peut se faire dans différentes structures. Mais il faut quand même avoir en tête que la structure et le médecin doivent avoir une accréditation, d'une part par la NSM, mais aussi par les CPP. Donc, il y a un contrôle de où ça se fait et par qui.
Voilà, tu as avancé un peu effectivement la question que j'allais te poser, mais tu peux la développer un peu plus. Qui autorise, quelles sont les instances qui autorisent les essais cliniques?
Alors, il existe différents types d'essais cliniques et différentes phases. Alors, dans la recherche clinique, il y a une loi qui est parue en 2016, enfin, elle a été écrite en 2012, mais les décrets d'application, c'est en 2016. On l'appelle la loi Jardé. Et la loi Jardé a divisé la recherche entre deux catégories. Les recherches impliquant la personne humaine, elles sont sous le couvert de la loi Jardé, et les recherches n'impliquant pas la personne humaine. Aujourd'hui, on va parler que des recherches impliquant la personne humaine. Alors là, je vais être un petit peu longue. Dans les recherches impliquant la personne humaine, on a les classes 1, 2 et 3. Les RIPH de type 3, il n'y a pas de prélèvement ni de geste supplémentaire par rapport à la prise en charge habituelle. Donc là, il n'y a aucun risque. Toutefois, on va vérifier que l'anonymat du patient sera respecté, que les médecins qui vont faire cette recherche sont accrédités, que le lieu est correct, que le patient, on va pas lui poser des questions qui vont le gêner. Donc, ça nécessite quand même une autorisation et une vérification du protocole. Tout ça pour assurer la sécurité du patient et son autonomie et son anonymat, ce qu'on appelle la protection du patient en général. Donc ça, c'est RIPH de type 3 et seuls les comités de protection des personnes sont à même d'autoriser ou pas l'essai. Un autre type de recherche, c'est les RIPH de type 2. Donc, dans les RIPH de type 2, le médecin ou l'infirmière ou l'ostéopathe vont réaliser des gestes qui ne sont pas dans la prise en charge du habituel du patient. Donc, c'est quelque chose qui est en plus, mais c'est quelque chose qui n'est pas dangereux. Par exemple, on va évaluer si un médicament qui normalement est administré par voie intraveineuse, si on l'administre par voie par comprimé, ça a la même activité, ça a le même effet. Vous voyez que le risque, il est quand même faible. Ou l'ostéopathie. Est-ce que si on fait de l'ostéopathie à des patients qui sont soignés pour des douleurs par voie médicamenteuse, est-ce que l'ostéopathie apporte un plus? Donc, le risque est faible pour le patient. Donc là, c'est RIPH de type 2 et le seul organisme habilité à autoriser l'essai, c'est de nouveau le comité de protection des personnes, donc le CPP. Le troisième type de recherche, c'est les RIPH de type 1. Les RIPH de type 1, comme elles comportent un risque, aussi minime soit-il, parce qu'il y a des essais, on essaie toujours que la balance, enfin, c'est pas qu'on essaie, on s'attache toujours à ce que la balance bénéfice-risque soit en faveur des bénéfices. Mais le risque zéro n'existe pas. Et dans les RIPH de type 1, on a des essais qu'on va appeler de phase 1, 2 ou 3. La phase 1 est la plus délicate. La phase 1, c'est lorsqu'on administre pour la première fois une molécule à l'homme. Donc, on ne peut pas connaître à l'avance tous les effets secondaires. Bien sûr, des études ont été réalisées chez l'animal avant, des rongeurs, des gros animaux. Mais les rongeurs ou les gros animaux, si proches des humains qu'ils puissent être, ce ne sont pas des humains. Donc, par exemple, s'il y avait un effet sur la cognition ou sur l'humeur, etc., ben, sur la souris, on ne peut pas le savoir. Donc, la RIPH de type 1 et la phase 1, elles comportent un risque qu'on ne peut pas mesurer absolument. Donc, c'est fait pour ça. Hein. En fait, on administre le médicament pour la première fois à une dose très faible et on va analyser si c'est bien toléré ou pas. Et là, ces recherches-là, elles sont analysées par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé et le CPP, qui ont des rôles différents. Donc, l'ANSM, Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, leur rôle, c'est d'évaluer la sécurité, c'est-à-dire où est produit le médicament, par qui, quels ont été les contrôles qualité. Donc, est-ce que le médicament répond bien à un cahier des charges pour une administration à lui-même? L'ANSM va vérifier la justification scientifique de l'essai. Est-ce qu'il est probant d'administrer cette molécule pour guérir cette pathologie? Donc, il y a des experts dans la pathologie et dans le médicament. Il y a des pharmacologues, etc. Donc, eux, voyez, c'est vraiment la sécurité et la justification. Et le CPP, donc le Comité de protection des personnes, lui, il va regarder la justification et la sécurité, mais surtout, il va s'attacher à la protection du patient. C'est-à-dire, est-ce que la lettre qui va être donnée au patient pour lui expliquer l'essai, est-ce qu'elle est parfaitement en adéquation avec ce qui va lui être fait? S'il y a 3 IRM et 15 prises de sang, est-ce que c'est bien noté pour le patient? Est-ce qu'il le sait avant de commencer? Parce qu'il faut que le patient, il signe un consentement qu'on appelle éclairé. C'est-à-dire que tout soit bien noté et qu'il prenne une décision en connaissance de cause. On va vérifier les CV des médecins, on va vérifier l'adéquation des lieux, on va vérifier que la protection des données du patient est respectée, que son anonymat est respecté, sa dignité est respectée. On va vérifier qu'il n'a pas trop de prélèvements, qu'on ne va pas le faire venir à l'hôpital la nuit ou trop souvent, en fonction de l'âge, etc. Donc, en fait, nous nous intéressons à la balance bénéfice-risque, à la sécurité, à l'autonomie du patient, à l'équité dans la proposition des essais cliniques. Donc, d'avoir deux visions différentes sur un essai clinique permet d'assurer un essai clinique bien mené et surtout la protection des patients.
Parfait. Merci beaucoup, Bettina. C'est vrai que ça nous apporte beaucoup d'éclairage sur la fonction du CPP et l'Agence nationale de sécurité des médicaments. D'ailleurs, simplement pour rappeler à nos auditeurs une chose que tu as bien dit, RIPH, c'est la recherche impliquant la personne humaine, hein, comme tu as bien dit. Alors, on voit l'importance du CPP. Comment est composé le CPP? Est-ce que tous les Français peuvent participer, peuvent devenir membres d'un CPP? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir membre d'un CPP?
Alors, est-ce que tous les Français peuvent devenir membres? Oui et non. On va voir. Beaucoup de Français peuvent participer. Alors, le CPP, il y en a 39 en France. Ce qui assure une indépendance des CPP. S'il y en avait qu'un seul, ben tous les essais cliniques iraient voir le même et donc bon, on sait jamais. Là, il y a 39 CPP. Donc, quand un médecin à Dijon veut faire un essai clinique, son essai va être analysé dans un des CPP français. C'est un tirage au sort. Donc, il y a aucun conflit d'intérêt. Les CPP sont composés de 28 personnes à ce jour, mais on va monter à 36 au mois de septembre. Donc, on va partir sur 28, sachant qu'on va monter un petit peu notre groupe. 28 personnes, il y a 2 collèges. Collège 1, ce sont des scientifiques. Donc, il faut être médecin ou infirmière ou scientifique, c'est-à-dire docteur en sciences, ou méthodologiste, c'est-à-dire statisticien, informaticien. Ça, c'est le collège 1, des scientifiques, des médecins, voilà, du professionnel médical. Ils sont 14. Le Collège 2, lui, est composé de personnes représentant la société française. Donc, il y a des juristes, alors avocats, juges, enfin, tout ce qui concerne le droit, il y en a 4. Il y a des représentants des associations, des représentants des patients, des éthiciens, donc des personnes intéressées par l'éthique, des travailleurs sociaux, des psychologues. Donc, vous voyez que c'est, la liste est large. Donc, est-ce que tous les Français peuvent participer? Oui, presque, parce que le deuxième collège, c'est des représentants de la société française, donc des représentants d'associations ou des représentants de patients. Donc, ils sont 14. Donc, vous voyez, c'est équilibré. Donc, 14 scientifiques, 14 non scientifiques. Et tout le monde a la même force pour voter. C'est-à-dire qu'un scientifique ne vaut pas deux non scientifiques. On a tous le même droit au chapitre. Chaque fois qu'un essai clinique est amené à être examiné au CPP, cet essai clinique a 3 rapporteurs. Il a une personne du collège 1, donc un scientifique, une personne du collège 2, donc un non scientifique, et le méthodologiste, c'est-à-dire un informaticien ou un statisticien qui va regarder la méthodologie. Et si le protocole concerne des enfants ou des radiations ionisantes, enfin des choses qui sont un peu plus particulières, on va demander un quatrième expert qui va amener son opinion en tant qu'expert. Donc, vous voyez, pour un essai, on a 3 rapports, voire 4 rapports. Donc, l'essai est présenté aux 28 membres par un des rapporteurs qui donne son opinion sur l'essai. Le deuxième rapporteur va parler à son tour et dire ce que lui en a pensé, est-ce que c'est pareil, pas pareil, qu'est-ce qu'il a vu de différent. Le méthodologiste va dire est-ce que la méthodologie est adaptée. Et ensuite, les 28 membres discutent entre eux pour du protocole, qu'est-ce qui n'a pas été clair pour eux, etc. Et on va donner un avis. L'avis, il est soit favorable d'emblée, bon, c'est rarissime, soit oui, mais, c'est-à-dire oui, c'est bien, mais vous devez améliorer ça, 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 et le promoteur est obligé de le faire. Soit avis défavorable, ça c'est rare aussi, à moins que vraiment ce soit vraiment pas vraiment mauvais, mais généralement on essaie plutôt d'aider le promoteur et les investigateurs à faire un bon essai plutôt que leur dire ce n'est pas bon. On préfère les aider à améliorer leur copie. Donc dans ces cas-là, ils ont 12 jours pour améliorer leur copie et de nouveau soumettre. Mais ce que j'insiste là-dedans, c'est que c'est collégial. C'est-à-dire qu'on a tous la même voix, on a tous le même pouvoir et on peut tous dire « ben moi, ça me convient pas pour telle ou telle raison » et ensuite on discute.
Parfait, merci beaucoup. C'est vrai qu'on comprend un peu plus comme le CPP prend une décision, mais est-ce qu'on peut quand même craindre que le CPP soit influencé par les industries pharmaceutiques ou par le gouvernement? On voit pendant le Covid, par exemple, on a eu beaucoup de demandes de protocoles qu'il fallait faire rapidement parce qu'il avait une urgence. Comment tu peux dire à nos auditeurs qu'ils peuvent avoir l'assurance que le CPP n'est pas influencé par les industries pharmaceutiques ni par le gouvernement?
Alors, l'assurance, elle vient du fait que alors les membres du CPP sont nommés par l'ARS, donc on envoie son CV et sa lettre de motivation pour être nommé au CPP pour 3 ans. L'ARS nous demande de faire une déclaration de conflit d'intérêts, c'est-à-dire est-ce qu'on a un lien avec l'industrie pharmaceutique ou le gouvernement ou pas. Et on est accepté dans le CPP que si nous n'avons aucun lien ou si le lien est vraiment minime, vraiment. Ensuite, s'il y a un petit lien, c'est-à-dire si on a eu un jour un financement d'une industrie pharmaceutique, on ne peut pas, si cette industrie-là, si Novartis, mettons, on a un lien avec Novartis, si c'est Novartis qui propose un essai, celui qui a un lien ne peut pas siéger, donc lui, il est exclu. Donc là, vraiment, il y a vraiment une attention particulière à ce qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts, ni avec les industries pharmaceutiques, ni avec le gouvernement. Alors, pendant la pandémie, c'est sûr que normalement, nous nous réunissons 2 fois par mois. Pendant la pandémie, beaucoup d'essais et des décisions à prendre rapidement. Donc, l'influence du gouvernement, elle a été de nous demander de nous réunir plus souvent. Mais les essais ont été analysés avec le même soin et avec la même qualité que hors période de pandémie. La seule différence, c'est comme on était tous confinés, eh bien, on s'est réunis par Zoom toutes les semaines et non pas tous les 15 jours pour que les analyses soient faites plus rapidement. C'est vrai qu'on a vu plus d'essais, mais c'est vrai qu'on était tous à la maison. Donc, et puis, c'est sur la base du volontariat. Donc, on a accepté, on a fait notre part du job, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Donc, ben, nous, les CPP, on veut bien avancer. Donc, on va travailler plus, se réunir toutes les semaines et évaluer les dossiers, mais avec le même soin et la même rigueur que hors pandémie.
Parfait. Merci beaucoup, Bettina. Simplement, pour préciser à nos auditeurs, c'est vrai que c'est un organisme qu'on connaît tous, mais l'ARS et l'Agence régionale de santé qui, effectivement, chapeaute un peu toute la partie médicale. C'est vrai que le sujet est tellement intéressant qu'on a eu énormément de questions. Il y a pas mal. Je sais pas si on pourra tout répondre, mais on va essayer. La première question qui vient de la population, est-ce que je pourrais connaître les résultats d'une étude à laquelle j'ai participé?
Alors, oui, bien sûr. Lorsque vous participez à un essai, donc on va vous donner une notice d'information où vous avez comment ça va se passer, pourquoi on vous a choisi à vous, tous les prélèvements, etc., tout ce que vous allez avoir. Et à la fin, il y a une rubrique « Comment connaître les résultats de l'étude à laquelle j'ai participé ?» Donc, cette rubrique, elle est prévue. Et vous avez, donc il y a un petit texte, soit vous avez les résultats de l'étude directement auprès du médecin qui vous a inclus et avec lequel vous avez créé des liens, parce que si vous participez à une étude, ben, il vous a suivi de façon particulière pendant un temps certain, soit il y a une adresse, un site web où que vous pouvez consulter à votre convenance pour avoir les résultats définitifs de l'étude. Mais attention, on a les résultats de l'étude, pas immédiatement, hein, puisque les études, d'abord, il faut récolter tous les résultats de tous les patients, les analyser, faire des statistiques, et ensuite, on a les résultats. Donc, il peut s'écouler un à plusieurs mois avant que vous ayez les résultats de l'étude à laquelle vous avez participé. Mais oui, vous avez le droit de connaître les résultats. C'est un de vos droits.
Merci beaucoup, Bettina. Une autre question. Protocole de recherche clinique est la même chose qu'essai thérapeutique?
Non, oui et non. Les essais thérapeutiques font partie des protocoles de recherche clinique. Quand on parle d'essais thérapeutiques, c'est qu'on imagine qu'on va administrer une molécule à quelqu'un. Donc, on fait un essai d'une molécule, soit pour la première fois, soit on veut confirmer, soit on veut montrer son effet, soit on veut confirmer son effet. Protocole de recherche clinique, c'est plus large. Dans un protocole de recherche clinique, ça peut être uniquement des questionnaires vis-à-vis d'un soin, comment vous vivez ce soin, ou est-ce que l'anesthésie A est plus efficace que l'anesthésie B. Donc, ce sont des questionnaires sur votre état de santé à l'issue d'une anesthésie. Donc là, il n'y a aucun risque. Donc, les essais thérapeutiques font partie des protocoles de recherche clinique. La recherche clinique, c'est quelque chose de vaste.
D'accord, parfait. Tu as déjà parlé de ça, mais rapidement, parce que la question revient. C'est quoi une recherche impliquant la personne humaine, RIPH? On avait déjà donné la définition, mais est-ce que rapidement, pour bien parler du sujet et que nos auditeurs sachent par cœur, tu pourras rappeler un tout petit peu rapidement?
Alors, recherche RIPH, c'est recherche impliquant la personne humaine sous le coup de la loi Jardé, dont les décrets sont parus en 2016. Et c'est trois phases. Donc, on évalue soit des médicaments, soit des dispositifs médicaux, soit des thérapies innovantes, thérapie génique, thérapie cellulaire, biothérapie. Et c'est RIPH type 1, phase 1, première administration à l'homme d'une molécule, ou première utilisation d'un dispositif médical. Phase 2, analyse de l'effet thérapeutique sur un petit nombre de patients d'une nouvelle molécule ou d'un dispositif médical. Phase 3, confirmation de l'effet thérapeutique sur plusieurs milliers de patients. Donc, l'exemple le plus récent, c'est la vaccination. La vaccination à ARN, RIPH de type 1 et phase 1, on a administré l'ARN qui permet de vacciner à 20 personnes pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Quand les 20 personnes, on a vu qu'il n'y avait aucun effet secondaire, on a administré le vaccin à 40 personnes qui ont reçu le vaccin, 40 personnes n'ont pas reçu le vaccin, donc un groupe placebo, et on a examiné sur 3 mois combien contracté un Covid. Donc là, on sait s'il y en a moins dans le groupe, s'il y a moins de gens qui ont eu un Covid dans le groupe vacciné, on sait que le vaccin marche peut-être. On a trop peu de monde. Et ensuite, on administre le vaccin à 40 000 personnes et 40 000 personnes ne reçoivent pas le vaccin. Ils repartent chez eux et on analyse 3 mois après combien ont contracté le Covid et on sait si le vaccin est efficace ou pas. Ça, c'est la phase 3. Donc, tout ça, c'est des RIPH.
Parfait. Je dois être payé pour participer à une recherche clinique?
Non, jamais de salaire. Ce serait trop dangereux. Les gens ne feraient que ça et surtout, ce serait dangereux pour la santé. Après, on parle d'indemnisation. Alors, celle-ci est différente si vous êtes un patient pouvant tirer un bénéfice de la recherche ou si vous êtes un volontaire sain. Si vous êtes un patient qui peut tirer un bénéfice de la recherche, on indemnise les frais de déplacement pour les visites à l'hôpital qui ne sont pas prévues dans le protocole. Donc, il n'y a que ça. Et pour un volontaire sain, en revanche, lui, il reçoit une indemnisation pour le temps passé à l'hôpital et pour le risque qu'il prend. Mais un volontaire sain ne peut pas gagner plus de 4 600 euros par an en faisant un essai clinique. Et ça, c'est pour, dans une idée de protéger les gens, qu'on n'ait pas des professionnels de thèse de médicaments.
Parfait. Bon, merci beaucoup, Bettina. Tu nous as éclairé énormément de choses. Un grand merci. Est-ce que tu as un message final, quelque chose, un message à passer à nos auditeurs?
J'aimerais que les auditeurs aient conscience que les essais cliniques sont peu médiatisés, mal connus. Il y a eu un fossé qui s'est creusé entre les scientifiques, les médecins et la population générale. On a l'impression que les gens n'ont plus confiance en l'industrie pharmaceutique. Pourtant, l'espérance de vie moyenne des Français a tant augmenté le siècle dernier. Et c'est vraiment grâce à l'amélioration de la prise en charge des patients et parce qu'on a pu faire des protocoles thérapeutiques et évaluer des nouvelles stratégies. Donc, les médicaments contre le cancer ont progressé de façon spectaculaire ces 10 dernières années. Sans les essais cliniques, c'est impossible de proposer un traitement efficace et sécurisé à tous. Il faut vraiment rétablir la confiance et informer les patients. Et notre rôle au CPP, c'est vraiment d'assurer la protection. Et on est vraiment engagés là-dedans. On est tous bénévoles. Au CPP, j'ai oublié de le dire, on est tous bénévoles dans l'idée de protéger les patients et d'aider la recherche pour que ce soit réalisé le mieux possible dans l'intérêt de tous.
Parfait, parfait. Un grand merci, Bettina, de ta participation. Tu sais que notre antenne, nos portes sont toujours ouvertes. Tu peux venir quand tu veux. Et merci pour toutes ces explications. Je pense que nos auditeurs, ils connaissent un tout petit peu plus maintenant la recherche médicale. Ils auront moins peur d'accepter de participer des protocoles grâce à toi, grâce à tes explications. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Edmundo. Merci beaucoup, Samuel, pour votre invitation. J'étais ravi de discuter avec vous.
Samuel, je te passe l'antenne.
Merci, Edmundo. Merci, professeur Couder, pour cette discussion riche en enseignements encore une fois. Edmundo se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle émission et un nouvel invité dans 15 jours sur Phare FM Montauban.
Parfait, merci beaucoup et d'ici à 15 jours, au revoir à nos auditeurs. Bonne journée à tous.
Au revoir.